LLA, l'émission du lycée Lucie Aubrac à Sommières.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir la psy de l'éducation nationale qui travaille au lycée Lucie Aubrac. Bonjour Madame Dubourg.
Bonjour.
Quel parcours faut-il faire pour être psy dans un lycée ?
Alors, pour être psychologue éducation nationale, déjà on intervient dans les lycées et les collèges, donc les établissements du secondaire, et ben tout simplement avoir le diplôme de psychologue, donc faire 5 années d'études en université de psychologie, atteindre le diplôme de psychologue et puis ensuite passer le concours auprès de l'éducation nationale pour devenir psychologue éducation nationale. Il y a 2 types de métiers, il y a dans le secondaire ou dans le primaire, ce qu'on appelle les psys scolaires.
Quel est votre rôle dans les lycées et les collèges ?
On a une double casquette. On a la casquette de conseiller d'orientation, parce qu'autrefois notre titre était mieux connu sous le nom de conseiller d'orientation psychologue. Donc cette double casquette existe toujours. On a des missions d'information à l'orientation, voir les jeunes des établissements, leur proposer des parcours adaptés à leurs ambitions et à leur capacité scolaire aussi. Et puis la deuxième casquette, qui est plus, vous l'aurez compris, psychologue, qui est plus en lien avec les difficultés personnelles que peuvent rencontrer les jeunes dans leur parcours scolaire. Alors, des difficultés affectives, mais aussi d'apprentissage. On est amené à évaluer aussi les compétences cognitives des élèves pour les orienter au mieux dans des systèmes éducatifs un peu plus adaptés. Des évaluations psychométriques qui permettent d'établir les compétences, ce qu'on appelle vulgairement intellectuelles. Donc les capacités à penser, à raisonner, à mémoriser, à analyser, à synthétiser des informations. Tout ça, toutes ces compétences sont englobées dans un quotient intellectuel total qui nous permettent de distinguer des difficultés en termes de capacité attentionnelle, par exemple, ou de mémorisation, des troubles du spectre autistique, déceler quelques difficultés qui entravent les capacités d'apprentissage.
Quelles sont les compétences qui sont attendues pour être psy scolaire ?
Les compétences sont prioritairement des compétences en termes psy, c'est-à-dire avoir quand même un certain sens de l'empathie, le sens de l'écoute, les capacités d'analyse, de disponibilité. Et pour être psy-EN en particulier, une grande capacité d'adaptation. Parce qu'on va d'établissement en établissement. On a notre charge, moi pour ma part, j'ai 3 établissements à ma charge. 2 lycées, un lycée et 2 collèges, dont un en REP+. Donc ce sont des établissements qui cumulent beaucoup de difficultés et qui accueillent des jeunes en situation précaire, on va dire, socialement, affectivement et économiquement. Voilà.
Et pour les jeunes qui n'y arrivent pas, isolés ou qui ont des troubles dans leur vie affective, que leur arrive-t-il ?
Alors, notre rôle, c'est une bonne question, parce que notre rôle dans l'établissement n'est pas à visée thérapeutique. Nous sommes dans les établissements du secondaire vraiment en termes de conseils. On essaie de déceler des difficultés et d'orienter les familles et les élèves auprès de structures en libéral ou en centre médico-psy ou auprès de psychothérapeutes. C'est pas dans nos missions que d'accompagner sur le long terme des patients, parce que là on parle d'élèves et pas de patients. Donc nous on travaille avec le matériau élève. Donc quand ils n'y arrivent pas, on propose aux familles de se rapprocher de personnes en libéral pour assurer un suivi un peu plus soutenu.
Quelles sont les plus grandes demandes que les élèves vous demandent et demandent à beaucoup de psy scolaires ?
Alors, il faut distinguer, c'est ce que je disais tout à l'heure, le collège, le lycée, on n'a pas du tout les mêmes missions. En collège et en lycée, on ne va pas travailler de la même façon, mais d'une façon générale, étant donné qu'on a la double casquette, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir des paliers d'orientation. Les élèves de 5e, de 3e, de 2nd et de terminale, la demande va être plutôt en lien avec qu'est-ce que je peux faire plus tard, quels sont mes parcours par rapport au projet que j'ai. Et puis ça, c'est des demandes qui sont assez récurrentes, qu'on a l'habitude de traiter, puisque voilà, ça fait partie de notre formation. Mais depuis le Covid, il y a énormément de demandes qui sont axées sur des difficultés à vivre ensemble, à apprendre, parce qu'on a perdu un peu la main sur les techniques d'apprentissage, sur la rigueur, la récurrence de la lecture et tout ça. Donc, un gros fléau, c'est le Covid, les réseaux sociaux, qui bloquent beaucoup de nos jeunes dans leurs relations et dans leurs apprentissages. Donc, c'est 50-50, on va dire. Même peut-être 70-30.
Du coup, vous dites que les réseaux sociaux vont diminuer les capacités des élèves ?
Alors, c'est pas une relation de cause à effet aussi tranchée, mais on observe, pour faire des bilans psychométriques assez régulièrement, une grande causalité quand même entre les capacités attentionnelles et la pratique de réseaux sociaux intempestive.
Et de par les changements que vous avez mentionnés tout à l'heure, à partir du Covid, quelles ont été l'évolution de votre travail de par ces changements ?
Les transformations de nos missions, elles ont été très sensibles au début. En fait, on a changé de titre. On est passé de conseiller d'orientation psychologue à psychologue de l'éducation nationale en 2017. Donc nos missions ont sensiblement évolué aussi, puisque c'était psy-EN. D'accord ? Arrive là-dessus le Covid. Donc on a été amené à télétravailler, comme beaucoup d'enseignants et d'élèves. Et quand on est revenu à une réalité un peu plus normale, on s'est rendu compte que le Covid avait fait beaucoup de dégâts dans les relations intrafamiliales et interpersonnelles. Et qu'on faisait appel à nous justement dans ce sens-là. C'est que les jeunes avaient perdu pied dans la rythmique, dans la dynamique des apprentissages, et faisaient appel à nous pour rétablir tout ça. Troubles de l'attention, troubles relationnels, difficultés à se mettre au travail, ouais, des problèmes de cognition assez importants, quoi. Donc ça a modifié aussi nos activités au sein des établissements.
L'évolution dont vous avez parlé est-elle positive ou négative ?
Ah ben moi, elle est toute positive. J'adore la filière psy, c'est ce sur quoi j'ai été formée. Donc j'apprends tous les jours et je suis en lien avec des professionnels à l'extérieur, en libéral. On travaille en équipe avec le médico-social des établissements, les infirmiers, les assistantes sociales, la direction, les enseignants. Donc le côté psy me passionne. J'apprends tous les jours. Donc voilà, les évolutions ne sont que positives.
Et avez-vous été touchée vous-même par l'évolution de votre métier ?
Touchée, non. En revanche, ça m'a mobilisée sur mes connaissances. Parce que ça fait un petit moment que j'ai passé mes diplômes à la fac. Donc une remise en information régulière est importante, notamment... du fait de l'évolution des technologies qui brouillent quand même les apprentissages, les nouvelles connaissances qu'on peut avoir en psychologie tout court, quoi. Donc non, pas une remise en cause, mais vraiment une remobilisation, on va dire.
Quel conseil vous donneriez à un élève qui n'oserait pas venir parler de ses problèmes ou de ses difficultés ou de ses troubles à vous, à d'autres psys scolaires ?
Je sais que le mot psy, EN, peut faire un peu peur. Encore. Alors, c'est par force d'échange avec les classes. Hein. Je vais dans les classes régulièrement, mon collègue ici aussi. Mais le mot psy, EN, est un peu compliqué à aborder. Donc, tout simplement, quoi. Nos bureaux sont souvent relativement isolés. Donc si c'est un petit peu la crainte du regard de l'autre qui vous empêche, sachez que là le bureau il est au CDI, que ma porte est ouverte à tout moment, que si vous n'arrivez pas à passer le cap, vous pouvez vous faire accompagner, en parler à un AED, à un enseignant qui pourra faire le médiateur entre guillemets, quoi.
Et si par exemple pour moi j'étais élève et que je voudrais prendre contact avec vous, mais je ne sais pas comment faire. Comment je pourrais procéder ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Dans cet établissement, au lycée Lucie Aubrac, on prend rendez-vous via la vie scolaire. Nous avons un agenda numérique qui est partagé. Et vous vous présentez à la vie scolaire, vous demandez un rendez-vous avec un des deux psy-EN, parce que je ne suis pas la seule à intervenir dans l'établissement, un des deux psy-EN, et on vous proposera une plage horaire. En sachant que si vous avez cours à cette heure-là, ce n'est pas grave, vous serez excusé de votre absence, il n'y a pas de pression, hein, c'est dans le cadre de votre intérêt aussi, à vous. Donc on ne va pas vous sanctionner parce que vous venez passer une heure à échanger sur votre parcours.
Avant de se quitter, auriez-vous un dernier mot pour nos auditeurs ?
Oui, prenez du plaisir à étudier, à travailler, à rencontrer, voilà.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu.
Au revoir.
Au revoir. Vos questions pertinentes. Merci. Bonne journée.